9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour François Ozon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va citer, vous êtes cinéaste, pardon, je vais citer 8 femmes, Sous le sable, Swimming pool, Potige dans la maison, plus récemment Grâce à Dieu et le dernier Été 85 qui sort en DVD et en VOD. Je disais merci d'avoir choisi Culture Média parce que vous êtes rare à la radio et dans les médias en général. Première question, Été 85 vient d'être présélectionné pour représenter la France aux Oscars, rien que ça. Ça vous fait quoi ?
Bah, ça me fait plaisir. Après, rien n'est gagné puisqu'on est plusieurs films français. Donc voilà, il y a un jury qui va se réunir très bientôt cette semaine et qui va décider le film français qui va représenter la France. Et après, il faut être en plus sélectionné par les Américains parce que tous les pays du monde entier, donc vous imaginez le nombre de films qui sont présentés, présentent aux Oscars et après, ils en gardent eux que 5.
Le jury.
Donc, c'est un long parcours.
Le jury qui fait l'écrémage entre les 5, c'est un jury français-américain, paritaire.
C'est français.
D'accord,
c'est
vous les connaissez bien ou pas ?
Je sais qu'il y a Thierry Frémaux, Véronique Kella, Serge Toubiana et puis des gens qui chaque année changent. Donc je ne sais pas exactement qui c'est, mais voilà, c'est eux qui vont décider.
Alors avant qu'on raconte votre film.
Et ça dépend aussi du distributeur américain qui va sortir le film aux États-Unis et la campagne qu'il propose de faire. Donc voilà.
On est presque dans un épisode de 10%, on en reparlera. Avant qu'on raconte Été 85, avant qu'on pose le décor, je dois dire que dès les premières secondes, le film démarre très très fort. À l'image, on voit un jeune homme qui est menotté, qui marche à côté d'un gendarme. On comprend que ça se passe dans un palais de justice, on imagine qu'il va passer en procès. Une fois n'est pas coutume, je diffuse les toutes premières secondes du film. C'est lui, Alex, qui parle.
Je dois être dingue. Il y a longtemps que j'aurais dû le savoir. Quand on a choisi la mort comme passe-temps, c'est qu'on est dingue. Mais attention, je dis dingue, pas fou. Faudrait pas me prendre pour un détraqué. Les cadavres, moi, c'est pas mon truc. Non, ce qui m'intéresse, c'est la mort. Avec un grand M. Les cadavres me foutent la trouille. Il me faut un effet pas possible. En fait, un cadavre m'a fait un effet pas possible. C'est même de ça que je suis en train de vous parler. Si ça vous dit rien, les trucs sur la mort... Si vous n'avez pas envie de connaître l'histoire d'un cadavre que j'ai connu quand il était vivant, si vous n'avez pas envie de savoir ce qui nous est arrivé, à lui et à moi, ni comment il est devenu un cadavre, alors vous n'avez qu'à laisser tomber, direct. C'est pas une histoire pour vous.
C'est dingue de dire ça, vous avez qu'à laisser tomber. Parce qu'au cinéma, on ne va pas sortir de la salle à la première minute. Mais là, un DVD chez soi, on peut l'éteindre.
Absolument.
Comme un livre qu'on pose au bout de 2 pages. Je me suis dit, c'est suicidaire et c'est génial.
Bah, ça vient vraiment du livre d'Aidan Chambers que j'ai beaucoup aimé quand j'étais adolescent. Et ça commence un peu avec cette voix intérieure, ce monologue. Alors, toute la fin, quand il dit « c'est pas une histoire pour vous, arrêtez », ça vient de moi, par contre.
Bah oui, mais c'est ça qui était intéressant. Oui. Si vous pouvez arrêter. J'en viens à l'histoire. Vous avez dit « c'est tiré d'un roman ». C'est à la fois un thriller, un teen movie, comme on dit, un roman d'initiation. Qu'est-ce que ça raconte ?
Ça raconte la découverte pour la première fois de l'amour, d'une relation amoureuse et cette forme de désillusion qu'on vit souvent quand on est adolescent, quand on se rend compte que le prince charmant ou la princesse charmante dont on a rêvé n'existe pas forcément. Et c'est ce qui arrive à Alex dans ce film qui va vivre un été à la fois sublime, merveilleux, où il va y avoir des émotions très fortes et en même temps beaucoup de souffrance. Donc toutes les choses sont très exacerbées, très, très violentes, parce qu'à l'adolescence, on revit les choses très, très violemment.
On va faire du classique, là, on va entendre la bande-annonce.
Pour qu'on parle de ce que tu as fait, le juge a besoin de savoir pourquoi tu agis de cette manière, et c'est à moi de donner mon avis.
Non, ça vous regarde pas.
Salut beau mec.
Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin.
Et pourquoi perdre du temps?
On est tous mortels. À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus.
Alex, on pourrait peut-être emmener Kate faire une promenade.
Oh, j'adorerais.
C'est toi la question.
Mais toi, moi, quoi?
Mais toi, tu m'ennuies, toi.
Qu'est-ce qui se passe? Disparais ou j'appelle la police. Disparais.
Et pour toi, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait ensemble. C'est moi que tu veux. Ça, c'est pas possible, Alex.
J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé.
Alors, on va donner le nom des comédiens Félix Lefebvre et Benjamin Voisin. Ils sont très jeunes, donc normal qu'on ne connaisse pas leur nom. Il y a également Isabelle Nanty, Valeria Bruni-Tedeschi en mère de famille complètement extravertie, magnifique. Melville Poupeau, le beau gosse. Vous l'avez rendu méconnaissable. C'est en voyant le générique à la fin que j'ai vu que c'était Melville Poupeau.
Ah bon, vous ne l'avez pas reconnu?
Moi, je ne reconnais pas les gens. J'ai un petit problème. Ça s'appelle la prosopagnosie. Mais prof de français, moustachu, des lunettes, vous l'avez presque rajouté une calvitie, je ne l'ai pas reconnu.
C'est vrai qu'après, grâce à Dieu, j'avais déjà travaillé avec Melville. Ça m'a amusé de lui donner le rôle de ce professeur un peu ambigu avec son élève.
Ouais.
Et on s'est amusé à se replonger dans les années 80. Et c'est vrai que dans les années 80, on était quand même très très mal fringués. Et donc, il a un pantalon très années 80, il a le pull années 80. Il a vraiment le look que pouvaient avoir mes professeurs à l'époque. Donc, et ce qui est bien avec Melville, c'est que c'est un acteur très caméléon, il se transforme très facilement. Et donc, on s'est beaucoup amusé à créer ce personnage.
Et années 80, il y a les looks, il y a les musiques qu'on va entendre, mais franchement, on a l'impression qu'il manquait que Marc Toesca pour lancer le top 50. Vous restez avec nous, François Ozon, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de François Ozon qui signe Été 85, film qu'il a signé, mais qui sort en ce moment en DVD et en VOD. On l'a raconté, c'est une histoire d'amour et de découverte entre deux garçons, deux jeunes garçons. Mais c'est une histoire d'amour avant d'être une histoire d'amour homosexuel.
Oui, moi c'est ce qui m'a plu quand j'ai lu le livre. Ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'il y a quelque chose d'universel. Finalement, que ce soit deux garçons n'est jamais problématisé. Ça pourrait être une histoire entre deux filles, entre un garçon et une fille. Ça va au-delà de ça. Et ce qui était touchant, c'est quand le film est sorti, on s'est rendu compte que le public du film était presque exclusivement féminin. Beaucoup de jeunes filles sont allées voir cette histoire et se sont identifiées au personnage, même s'il s'agissait de deux garçons.
Vous parlez d'un roman, je vais le citer. C'est un roman britannique qui s'appelle La danse du coucou.
Oui.
Aidan Chambers, c'est ça?
Oui.
Qui était sorti en 82. Et dans le livre, ça vient de vous, le fait que l'homosexualité ne soit pas en surplomb comme ça de cette histoire? Ou est-ce que c'était déjà totalement déculpabilisé dans le roman?
Oui, c'était déjà dans le livre. Ce qui était beau dans le livre, c'est que c'était pas un enjeu. Et moi, ce qui m'avait touché particulièrement à l'époque, c'est que toutes les représentations de l'homosexualité dans l'art à l'époque, c'est-à-dire que ce soit dans les livres, dans les films, étaient extrêmement dures, très sur la culpabilité, sur la souffrance.
Et genre L'homme blessé, le film de Chéreau.
Ou Querelle de Fassbinder, enfin les films que j'avais vus moi à l'époque, et c'est vrai que là ça donnait quelque chose, c'était une histoire d'amour très légère, très sentimentale, et ça faisait du bien de lire ça à cette époque, et en plus après il y a eu le sida qui est arrivé, donc c'était d'autant plus appréciable.
J'ai vu beaucoup d'hommages dans ce film, on va parler de la bande-son, il y a une scène assez incroyable en boîte de nuit, un hommage au film La Boum. Alors je raconte, les héros sont en boîte, et il y en a un qui se met un Walkman sur les oreilles pour écouter une autre musique, comme dans La Boum.
Enfin, c'est David qui met le Walkman sur les oreilles d'Alex. Effectivement, comme de La Boum, c'est un jeu qu'on faisait tous à l'époque.
Voilà. Mais c'était un hommage au film La Boum, ça vous est venu comment cette idée?
Moi, je me suis beaucoup inspiré des teen movies que j'avais vus à l'époque, parce que j'ai vraiment fait le film pour l'adolescent que j'étais. Et le teen movie français culte des années 80, c'est vraiment La Boum. Et donc, c'était rentré dans les mœurs pour tous les adolescents de l'époque, quand on était en boom, de poser un Walkman sur la tête.
C'était dans votre scénario?
Non, c'était pas dans le scénario.
Parce que moi, j'ai lu que vous avez improvisé. Je vais raconter ce que
Absolument.
J'ai lu. Il y a une scène avec des stroboscopes, on est en plein dans les années 80. La lumière qui fait comme ça. Et il y a un technicien belge qui n'arrive pas à faire marcher les stroboscopes.
Non, mais je vais pas dire du mal des Belges. Non, mon chef opérateur belge, qui est un très grand chef opérateur, Hicham Alaoui, je lui ai dit, voilà, je veux une scène avec un stroboscope, avec une lumière très années 80. Et en fait, quand je suis arrivé dans la boîte de nuit, j'ai vu la lumière, je lui ai dit, mais c'est pas du tout ça. Donc je me suis dit, peut-être qu'on n'a pas les mêmes références. Peut-être que dans les années 80, les stroboscopes français et belges n'étaient pas les mêmes. Donc on a dû attendre d'avoir le bon matériel. Et pendant ce temps d'attente, j'ai tourné une autre scène et j'ai improvisé la scène où David pose le Walkman sur les oreilles d'Alex. Et ce qui est amusant, c'est que cette scène... qu'on a fait un petit peu comme ça, sans trop y croire, on s'est rendu compte au montage plus tard avec la monteuse que c'était le cœur du film.
C'est la scène emblématique.
Absolument, puisqu'elle montre que ces deux garçons ne dansent pas sur la même musique. Et voilà, donc ça raconte tout le drame de leur histoire d'amour.
Et Pasteur disait, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Vous aviez quand même le Walkman d'époque avec les oreillettes orange,
oui,
en
absolument.
Mousse.
Absolument.
Il était déjà prêt. Grande part est accordée dans ce film à la musique. Musique signée Jean-Benoît Dunkel de R. Mais il y a aussi des tubes des années 80. Pourquoi ce choix? Je veux dire le sens de ma question. Parce que vous avez dit, dans les années 80, la musique était nulle.
Non, j'ai pas dit que c'était nul.
Libre Belgique, non. 15 juillet 2020.
Ah oui,
dans les années 80, la musique était nulle.
C'était en Belgique que j'ai dit ça, c'est pour ça. Non, il y avait des arrangements. Enfin, il y a des arrangements des années 80 qui ont très très mal vieilli.
Ouais.
Mais moi, je trouve qu'il y avait des mélodies absolument incroyables. Mais
ça, c'est vrai que... pardonnez-moi de vous interrompre, ça a très bien vieilli. Le film démarre avec ça.
Ouais.
C'est
Cure, In Between Days. Ça, c'est vraiment un morceau magnifique, intemporel. Et pour moi, c'était très important de l'avoir dans le film parce que c'est la musique que j'écoutais vraiment à l'époque.
La scène finale, c'est celle-ci.
Alors ça, c'est pas une chanson des années 80, c'est une chanson des années 70. Mais on se raconte dans l'histoire que c'est peut-être le père de David qui est mort, qui écoutait cette musique parce qu'il était marin.
Ouais.
Voilà. Mais elle est très importante dans le film puisqu'on l'entend deux fois.
Avant que les gens fassent Shazam, je vous le dis, c'est Rod Stewart, Sailing. Celle-ci, aussi facile à trouver.
Ça, c'est Jamas.
Ouais. Ça te plaît, ça, ou pas?
Oui, bah, c'est un bon morceau. Oui. Je trouve que c'est un bon morceau. Bon morceau. Je trouve que c'est assez bien vieilli par rapport à d'autres morceaux.
Plus difficile, vous auriez trouvé ça?
Laura Branigan, Self Control.
RAF. Et on va aller direct à la dernière, je dis ça pour Nicolas Souvent, notre réalisateur, ça j'aurais jamais trouvé.
Star de la pub, l'avion d'école sur les Champs-Élysées. Alors ça, c'est un morceau que j'ai écouté vraiment enfant, qui a été un énorme tube à l'époque et qui était assez oublié.
Et ça, ça a bien vieilli ou mal vieilli?
Ah, moi, je trouve que ça a très bien vieilli. En tout cas, le refrain a très très bien vieilli.
Vous restez avec nous, François Ozon. Ouais. On marque une toute petite pause et on a encore plein de questions à vous poser et même des pourcentages. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Blondel.
En compagnie du cinéaste François Ozon qui signe Été 85, le film était estampillé Cannes, il est sorti cet été en salle, il a attiré 400 000 spectateurs, ce qui n'est pas rien dans le marasme actuel. Netflix voulait le sortir sur sa plateforme, vous avez refusé, pour quelle raison?
Enfin, mes producteurs ont été contactés par plusieurs plateformes qui étaient intéressées, mais ils voulaient le film pour le monde entier. Et moi, j'ai vraiment fait ce film pour le cinéma. J'avais envie qu'il soit sur un grand écran. Je l'ai tourné en plus en pellicule. Donc, très vite, on a refusé parce qu'ils voulaient même la France, quoi. Ils voulaient que. Et moi, c'était important aussi, presque comme un geste politique, de continuer à soutenir les salles. Moi, j'ai découvert le cinéma dans les salles et j'ai envie que ça continue. J'ai pas envie que les gens découvrent mes films sur des petits écrans, sur des téléphones. Donc, tant que la salle est là, je ferai en sorte que mes films sortent en salle.
Et c'est tout à votre honneur. Alors donc désormais, il y a le DVD disponible, il y a un bonus dans le DVD, il y a les scènes coupées, c'est-à-dire, alors on voit une fille qui tombe sur la plage, le héros qui n'arrive pas à freiner avec son vélo, la réplique qui ne vient pas. En fait, c'est un bêtisier. Et je ne revenais pas de voir un bêtisier chez Ozon. Normalement, il y a ça chez Astérix ou dans les films de Danny Boone.
C'est pas vraiment un bêtisier. Disons que c'est comme il n'y avait pas de making-of. Ouais. Ce qui était intéressant, c'était de voir l'envers un peu du décor,
oui,
voir
vous
la
avez
difficulté
mis, vu,
de certaines scènes.
Vous avez mis que les ratages.
Bah oui, mais c'est ça qui est drôle.
Ah,
non,
je suis
c'est ça qui est intéressant.
Non, mais je vous le reproche pas. Mais je me suis dit, tiens, Ozon qui fait du bêtisier.
Non, mais j'en avais déjà mis, je crois, sur 8 femmes. Je crois qu'il y en avait un.
Ah oui,
et
mais
même
comme
sur Potiche. Mais c'était des comédies.
Non, mais surtout, je l'avais vu en salle.
Oui, oui.
Donc je savais pas qu'il y avait ça dans vos DVD. Et puis aussi, ils galèrent les deux sur leur bateau. Ils sont sur des petits bateaux, ils galèrent, tout le monde
c'était
galère.
C'était la galère pour tout le monde. Pour moi, pour les acteurs, qui avaient quand même fait une semaine de voile avant le début du tournage, mais qui sont vraiment pas des pros.
Ouais.
Et puis après, on dépend de la mer, on dépend de la météo, donc c'est un vrai cauchemar de tourner sur l'eau.
Je rigole parce qu'il y a la scène où il est sur un bateau, son bateau chavire, et l'autre arrive, il dit c'est très simple, tu t'accroches comme ça à la quille, tu fais ça, et quand il le tourne, personne n'y arrive, il faut gars pour aider, il se retourne absolument pas comme il veut le bateau.
Non, c'était très compliqué.
Vous êtes
heureusement, le montage sauve les choses.
C'est le principe du montage. Vous êtes un bon navigateur, Nicolas Caro?
Je me débrouille.
Voilà, parce que ce matin...
J'ai fait les Glénans, monsieur.
Ah, la meilleure école de voile, paraît-il.
Oui, de France.
Et vous nous emmenez monde, en mer avec Florence Artaud.
Et l'écrivain Yann Kefelec qui signe un très beau livre chez Calman Lévy, La mer et au-delà, avec sur le bandeau une photo de Florence Artaud, très jeune, sur un bateau, justement, en train de régler ses voiles.
C'est une biographie de Florence Artaud?
Alors, pas vraiment. Vous en apprendrez beaucoup sur elle, mais c'est plutôt une forme d'hommage, une déclaration d'admiration, je ne sais pas comment le dire autrement, de la part de l'écrivain de la mer, Yann Kefelec, pour la navigatrice aventurière mythique, qui est morte, je vous rappelle, tragiquement et bêtement lors d'un tournage d'un jeu télé. Elle était dans un hélicoptère, 10 morts, l'horreur, dont Florence Artaud. Donc, et c'est en voyant ça que Yann Kefelec a commencé à écrire un poème d'abord, et puis finalement tout un livre, un portrait.
C'est une certaine vision que j'avais de ce personnage, incroyablement romanesque, une femme qui a toujours dit non à tout le monde. Elle dit non au destin lorsqu'elle a un accident de voiture et qu'elle aurait pu y rester, elle aurait dû y rester, elle était vouée à une chaise roulante. Et finalement, elle devient l'athlète océanique qu'elle est devenue. Elle dit non à ses parents lorsque ses parents veulent qu'elle devienne médecin, alors qu'elle a choisi la mer et qu'elle veut traverser l'océan. Tout le monde trouve ça trop dangereux, on voudrait qu'elle fasse des mômes. On voudrait comme ça qu'elle ait une belle petite vie bourgeoise comme elle aurait pu l'avoir. Et elle dit non au milieu de la mer également, qui ne veut pas d'elle, parce que ce sont des machos, ils ne comprennent absolument pas ce qu'elle vient foutre. Et lorsqu'elle remporte sa course du Rhum à bord de Pierre Ier, elle gagne devant les meilleurs marins du monde, qui à ce moment-là commencent à s'incliner.
Et là, on sent l'admiration de Kefelec dans sa voix.
Oui, j'ai coupé bien sûr l'interview, mais quand je lui ai tendu le micro, il était inarrêtable en parlant d'elle.
Ils étaient amis ?
Même pas, enfin pas vraiment. Ils se connaissaient, ils se croisaient. Florence Artaud voulait écrire un livre d'ailleurs avec l'aide de Kefelec, mais ils n'étaient ni véritablement amis ni amants, comme dit Yann Kefelec. Simplement, il était fasciné par elle. Comme un écrivain est fasciné devant un être hyper romanesque. J'aime bien d'ailleurs sa manière de définir leur relation. Écoutez.
Plutôt une espèce de sœur que je voyais irrégulièrement. Mais je l'aimais bien. Et étrangement, quelqu'un qu'on aime bien, c'est presque aussi fort que quelqu'un qu'on aime quand ça n'est pas beaucoup plus fort. Donc j'ai écrit ce livre sur Florence parce que je l'admirais et parce que je l'aimais bien.
C'est une bonne raison. Puis il y a plein de bonnes raisons d'aimer Florence Artaud.
D'aimer bien
Florence, d'aimer bien, vous avez raison.
Artaud. C'est sûr qu'elle force l'admiration. On se souvient de la route du Rhum en 90, mais elle a vécu 1000 aventures avec des épisodes incroyables. Un en particulier que nous rappelle Yann Kefelec.
C'est quelqu'un à qui la mer a presque toujours pardonné. Lorsque Florence tombe à l'eau au large de la Corse, en pleine nuit, sans gilet de sauvetage, elle n'a rien d'autre à faire que de regarder son bateau filer avec un petit chat qui miaule à l'arrière et la radio comme ça qui bourdonne. Elle n'a plus qu'à sombrer, qu'à disparaître. Non, elle s'aperçoit que, contrairement à ce qu'elle fait toujours, elle a son téléphone portable avec elle et on s'en aperçoit au moment où elle se déshabille. Elle a déjà nagé comme ça pendant des heures et des heures. Ce portable la met en contact avec sa mère, qui entre en contact avec son frère, qui parvient à entrer en contact avec un hélicoptère. Et finalement, elle est récupérée par un marin-pompier qu'elle n'attend absolument pas, qui vient la choper par les cheveux alors qu'elle sombre, qu'elle est en train de couler, qu'elle n'attend personne. Et elle est sauvée. Donc c'est ça, Florence Artaud. C'est une espèce de force de la nature et de force du destin.
Incroyable. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas une biographie, c'est pas épisode glorieux par épisode glorieux, c'est un dessin vrai de Florence Artaud. Du point de vue de Kefelec, c'est souvent très drôle, parfois héroïque, parfois pathétique. Elle a vécu des moments très durs, mais toujours poétiques jusqu'à la fin, le dernier chapitre qui s'appelle Jusqu'au bout. C'est tragique, bien sûr, mais il y a juste avant un dialogue improbable entre Philippe Candeloro, qui faisait partie de l'émission, et Florence Artaud. Improbable et très drôle. Ça se termine en légèreté grave ou en gravité légère, comme vous voulez, du Kefelec.
La mer est au-delà, c'est chez Calman Lévy. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Une réaction, François Ozon ?
Ça a l'air touchant. En tout cas, ce n'est pas moi qui ferai le biopic de Florence Artaud parce que je n'ai pas envie de retourner sur l'eau.
Yann Kefelec, il sera tout à l'heure à 11h, juste après cette émission, l'invité d'Anne Romanoff. Vous restez avec nous, François Ozon. Dans un instant, notre deuxième indispensable, Louise Bernard, va nous parler d'un spectacle, mais d'abord musique, avec Noé Préchaud.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de François Ozon, cinéaste, Été 85, ça vient de sortir en DVD et en VOD. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Faute de salle de spectacle ouverte, vous nous conseillez un spectacle à voir à la télévision. C'est filmé pour Canal+, diffusé ce soir et ça s'appelle 60.
François Ozon, si vous aviez une minute de carte blanche sur une scène, qu'est-ce que vous en feriez ? C'est pas facile de répondre à cette question et c'est ce défi que l'humoriste Kian Kojandi a lancé à 60 artistes.
Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue à 60. Alors 60, qu'est-ce que ça veut dire ? 60, ça veut dire qu'on va passer 60 minutes ensemble. 60 artistes vont passer sur cette scène. Chaque artiste aura 60 secondes, mais pas une de plus, d'accord ? Donc si vous voulez les accueillir fort, dire « Ah, lui je l'aime bien, oh, je le connais pas, mais j'ai envie de le soutenir », faites-le, mais rapidement.
Okay. Et je vais demander à François Ozon tout à l'heure ce qu'il fera s'il avait une minute.
Je vous laisse le temps de réfléchir, le temps de la chronique, bien sûr. Je vous dévoilerai aucun nom ce matin, car ce qui fait la force du programme, c'est d'être surpris par l'artiste qui arrive sur scène. Je peux vous dire qu'en grande majorité, ce sont des humoristes, mais pas seulement. Quelques musiciens et chanteurs viennent bercer la salle entre deux rires. Certains artistes saupoudrent la soirée de poésie ou bien troublent le public en étant totalement à contre-emploi. Vous verrez un imitateur qui n'imite pas, un musicien qui ne joue pas et un chanteur sans voix.
Ce sont des artistes connus, Louise ?
Il y a de belles surprises, mais aussi des jeunes talents du stand-up. Ce n'est pas la notoriété d'ailleurs qui garantit la qualité de la minute. C'est aussi ça qui est intéressant. Ça et les univers très différents d'un artiste à l'autre. J'ai donc voulu demander au chef d'orchestre de cette soirée, Kian Kojandi, comment il avait choisi les 60 artistes.
En fonction de l'argent qu'il me donne. C'est-à-dire que je fais une enchère et plus il donne de l'argent, plus je les choisis. Voilà. C'est totalement mercantile et c'est efficace en même temps.
Voilà, évidemment, c'est du second degré, ouais. Voici la vraie réponse.
Je vais beaucoup dans les salles, les petites salles de stand-up, j'y vais 2-3 fois par semaine, je vais voir un peu, repérer un peu les talents qui sont là-bas, toujours être connecté à ce qui se fait aujourd'hui, et puis c'est des gens que j'admire, dont j'aime le talent, dont j'aime la personnalité, qui fonctionnent très très bien dans une énergie de troupe. Non, c'est, y a pas de critères, y a que de l'envie, quoi.
Alors, je vous l'ai dit, la majorité des artistes, ce sont des humoristes. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour eux ? Jouer un spectacle en entier ou avoir une minute pour faire ses preuves ?
C'est un sport. C'est comme si je vous disais, quelqu'un qui sait courir 45 minutes, 1 heure et demie, n'a pas la même capacité pour faire un 100 mètres. C'est deux sports différents qui ont chacun leurs difficultés. Tenir un spectacle d'une heure et demie, c'est pas le même muscle que de tenir 60 secondes. Donc ça demande un travail d'adaptabilité et donc ça force le respect aux artistes qui s'y sont pliés parce qu'il y a plein de gens qui ont leur spectacle et qui n'ont pas l'habitude de faire 60 secondes justement et donc ça a été assez... C'est assez courageux quand même, mine de rien.
Et très très bonne idée ce programme, c'est Kian Kojandi qui a eu l'idée.
Alors c'est lui qui l'a importé en France avec le producteur Arnaud Chautard. En fait c'est un concept qui est venu du Canada. Kian Kojandi y avait participé à Montréal et il avait adoré. Voilà comment est arrivé 60 l'année dernière sur Canal. Car en fait c'est la deuxième édition dont je vous parle, ça s'appelle 62. C'est riche, c'est drôle, c'est original, c'est tendre et poétique par moments, surprenant évidemment. Et c'est sur Canal+, ce soir à 21h.
Et donc François Ozon, si vous aviez une minute sur scène, vous feriez quoi ?
J'irais pas déjà. Je le ferais pas. Non, si je suis réalisateur, c'est pour être derrière la caméra. Non, par contre j'enverrais un film d'une minute. Ça ouais. C'est un bon exercice, je trouve, pour un cinéaste d'essayer de raconter quelque chose en une minute. Je me souviens que j'avais participé à un jury pour des courts-métrages très très courts de 2-3 minutes et en fait il y avait des choses extrêmement bien en une minute. Je suis sûr qu'on peut réussir à faire quelque chose de fort. Moi j'ai fait beaucoup de courts-métrages donc ça m'intéresserait en tant qu'exercice. Mais par contre je ne monterai jamais sur scène.
Merci beaucoup pour cette réponse François Ozon et merci Louise Bernard.
Avec plaisir.
À très très vite. Culture Média qui continue. On revient avec notre invité François Ozon juste après ceci.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de François Ozon qui signe Été 82, c'était en salle, c'est désormais 85, pardonnez-moi. Je pensais à c'était l'été 42, j'ai fait une sorte de mauvais mix. Été 85, c'était en salle et c'est désormais en VOD, en SVOD, en Blu-ray et en DVD. Vous tournez un film par an, vous êtes hyper actif. Vous avez un autre film qui est déjà prêt, dont vous êtes en montage.
Non, je suis en post-production. Ouais. J'ai tourné cet été entre le déconfinement et le reconfinement. J'ai eu le temps de tourner un film.
Selon mes infos, c'est un film avec Sophie Marceau, André Dussolier, qui s'appelle Tout s'est bien passé.
Absolument.
Est-ce que, pardon de cette question, mais est-ce que c'est Tout s'est bien passé sur le tournage de Tout s'est bien passé ?
Oui, tout s'est bien passé, le tournage finalement. Bon, ça a été un peu compliqué. On a tous travaillé avec des masques, sauf les comédiens évidemment.
Ouais.
On a été testés régulièrement, donc ça a été un peu difficile à mettre en place. Mais finalement, après, quand on est concentré sur le travail et qu'on. Voilà, on a pu faire tout ce qu'on voulait faire. Et puis, c'était comme c'est un film très intime, c'était pas un film compliqué, il n'y avait pas des grandes scènes de figuration. Je pense que si j'avais dû tourner Été 85 cet été, ça aurait été plus compliqué parce que j'avais des scènes de boîte de nuit et ça, c'est pas très recommandé en cette période.
François Ozon, vous êtes l'un des rares cinéastes français à réussir la quadrature du sexe. Vous faites des films d'auteur, mais qui sont également des succès commerciaux, alors qu'en général, c'est soit l'un soit l'autre. Vous arrivez à faire ce qu'arrivait à faire Truffaut en son temps. Et vous êtes une référence pour beaucoup de gens dans le milieu du cinéma et une référence de la série 10%, je le rappelle, qui raconte les coulisses des agents et du cinéma français qui se tirent la bourre entre les agents. Exemple, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la dernière saison, épisode 6. Vous n'y êtes pas, François Ozon, mais non. Vous y êtes quand même.
Sophia, c'est toi ou pas ?
Je sais pas, de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas me taper ?
Non, je ne vais pas te donner un moyen supplémentaire pour faire pression sur moi. Hein.
Oh, mais la pression, tu te la mets tout seul, Gabriel. J'ai l'impression que tu tiens encore beaucoup à ta petite Sophia. Un rôle face à Lucchini, dans le Ozon, ça risque pas de lui arriver avant longtemps. Accepter un boulot d'agent, c'est vraiment un si gros sacrifice que ça ?
Avec toi, oui.
Ça va ?
Qu'est-ce que tu veux ?
Bah rien, je veux juste qu'on... juste qu'on puisse se parler. Et les contrats du Ozon sont arrivés, et du coup Camille et moi, on s'est fait un flip. Mais c'était juste un contretemps juridique.
Je suis content pour toi.
Très.
Pourquoi j'ai fait quoi ?
Élise, le Ozon ?
Comment tu sais?
Mais comment je sais? On s'en fout, c'est entre toi et moi, là. Pourquoi t'as fait un truc pareil? Pourquoi t'as cédé à cette biatch pour un rôle?
Vous avez vu cet épisode?
Oui, j'ai vu, non. Alors, pour dire la vérité, Dominique Besnard était mon agent, quand il était encore agent, avant d'être producteur et de produire cette série. Et il m'a proposé de jouer dans un des épisodes, de jouer mon propre rôle, l'épisode avec Isabelle Huppert, qui était dans la saison d'avant.
Et pourquoi vous avez dit non?
Bah, parce que je me sentais pas capable, je suis très mal à l'aise devant une caméra.
Quand même, vous êtes au moins capable de jouer François Ozon.
Non, je veux bien qu'il parle de moi, mais j'avais pas envie de jouer, moi.
Louise Bernard.
Rôle.
Et on vous a prévenu avant que vous alliez être cité dans la série?
Non. Non. Voilà. Mais bon, je connais très bien Dominique et puis c'est assez drôle. Il y a une blague du scénario qui m'a fait rire où ils disent en fait il y a François Ozon, un frère jumeau qui s'appelle Gilles Ozon, c'est pour ça qu'il tourne autant. C'est soit l'un soit l'autre qui tourne. Ça,
vous
ça m'a
un
fait rire.
Par vois, ouais. Votre précédent film, c'était Grâce à Dieu, c'était presque un film d'actualité. Ça racontait le combat des victimes d'un prêtre pédophile de Lyon et notamment ça évoquait le silence du cardinal Barbarin qui l'a en quelque sorte couvert, qui a fermé les yeux sur cette affaire. Vous pourriez refaire des films d'actualité comme ceci en prise directe avec le réel?
Oui, pourquoi pas, s'il y a une histoire qui me passionne suffisamment. C'est vrai que quand j'ai découvert en fait cette histoire et que j'ai rencontré les victimes, j'étais tellement ému et touché par leur combat que j'ai eu envie de la raconter dans un film. J'ai eu l'impression que c'était plus fort que de la fiction. Donc quand la réalité est plus forte que la fiction, forcément elle intéresse les réalisateurs en général.
J'en aurais pas parlé si c'était pas dans l'actualité et si je savais pas que je vous recevais, mais je regardais l'affaire Daval, dont le procès a lieu en ce moment.
Ah oui,
et je me suis
bon
dit,
rôle.
Mais c'est un huis clos à la Ozon, il y a deux familles, un couple modèle. Quand on creuse l'intimité, c'est le contraire d'un couple modèle, avec des zones d'ombre dans la sexualité, pardon de dire ça, cette maison-là, ce village...
Vous voulez me produire, c'est ça?
On va demander à Dominique Besnard, mais c'est du Ozon cette histoire. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, ce type d'histoire? Je ne parle pas de celle-ci.
Oui, j'attends de voir un peu comment ça évolue. Mais oui, les faits divers sont souvent des sources d'inspiration incroyables. Et cette histoire, en fait, ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que ce garçon a joué la comédie. Il est devenu acteur. Et c'est ça qui est toujours intéressant.
En plus, je n'avais même pas pensé à la battue. Et à cette chose dramatique, où il était en train de chercher le corps de sa femme dont il savait que lui-même l'avait brûlé.
Ouais, c'est assez passionnant, assez angoissant aussi de voir que l'être humain est capable de choses pareilles, mais en même temps, ça serait un bon scénario, je pense.
Je ne serais pas mécontent que ce film se fasse. Je ne suis pas producteur, mais si des producteurs
nous
écoutent...
Ça va être fait avant moi par la télévision. Repris par la télévision.
Merci beaucoup, François Ozon, d'avoir été avec nous. Spécial pour Louise Bernard. Rod Stewart, Sailing. Ça vient à la fin du film, ça vient deux fois, je dis pas où, je dis pas comment, c'est juste une merveille. DVD, SVOD, été 85, c'est disponible. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Dans
à
Culture
bientôt.
Média. Nous, on se retrouve demain à 9h, évidemment, avec l'un des auteurs les plus lus de France, Michel Bussy. Il vient nous parler de l'adaptation en BD de son roman à succès, Gravé dans le sable. Roman succès, ils sont tous à succès avec Bussy. Et puis, rendez-vous avec la nature, une nouvelle émission sur Ushuaïa TV. Elle s'appelle En terre ferme. Nous serons avec le directeur du pôle thématique de TF1, c'est Christophe Sommet, et le s'aventurier tel qu'il se définit lui-même, Bertrand Piccard, le Suisse, invité de cette nouvelle émission. Après le flash, c'est Anne Romanoff qui reçoit donc Yann Kefelec. Ça fait du bien. À demain. Merci encore, François Ozon.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.